Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel, par-dessus les toits. 55%, ça monte, ça monte. Et qui c'est qui est dans le caca? Pas nous, pour une fois. Vive la France révolutionnaire, Marie-Paul de Villejuif.
Bonjour, des mille ans que vous êtes otage des religions. Ne vous oubliez pas. Amen. Voilà, merci, merci Jean-Paul, merci Daniel, à bientôt, c'était Loul Le Mérou.
Bonjour Daniel, c'est Abdeslam de Bordeaux, je t'appelle pour te remercier pour tout, et de dire à mes frères chrétiens et juifs que nous ne sommes pas une menace pour qui que ce soit. La preuve, pour être musulman, il faut croire à toutes les religions. Et la preuve que nous tous les ans, en fait, on sacrifie un agneau pour Ibrahim, Sidna Ibrahim, notre Seigneur Ibrahim. Et Jésus, on dit Sidna Issa Banu Mariam, notre Seigneur Jésus, le fils de Marie, la Vierge. Vous voyez que pour être musulman, d'abord, il faut croire à toutes les religions. Et voilà, on ne sommes pas une menace pour qui que ce soit. Allez, bonjour tout le monde et à bientôt.
Bonjour à tous, ici Catherine Dutarn. Depuis quelques jours, les médias ont choisi de focaliser notre attention sur la dénonciation quasi unanime de la directive Bolkestein, initiée par un Chirac qui monte au créneau en défenseur outragé de nos intérêts sociaux. Il nous dit en substance, maintenant que nous avons écarté le pire, vous pouvez dire oui à la Constitution. Moi, j'ai envie de dire, de qui se moque-t-on? Cette directive n'est que l'arbuste qui masque la forêt des 448 articles de la Constitution, laquelle valorise de bout en bout les concepts ultralibéraux contenus dans cette fameuse directive Bolkestein. Ce n'est pas une constitution qui définit une vision commune de la société dans laquelle nous aimerions vivre, c'est purement et simplement un traité commercial très bien verrouillé qui soumet, et pour longtemps, la quasi-totalité de nos libertés individuelles et collectives au pouvoir suprême du marché, défiant même ainsi les valeurs de notre bonne vieille Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Alors avant de signer, je veux dire avant de voter, surtout, surtout, lisez le texte de cette Constitution, sans oublier la troisième partie, et si vous la trouvez indigeste, c'est peut-être qu'elle n'est pas si bonne pour votre santé. Si vous ne savez à quel saint vous vouez pour vous aider à comprendre, je vous conseille entre autres la lecture ou les conférences-débats du politologue Raoul-Marc Génard, auteur de « Europe, la trahison des élites » et son site urfig.org, urfig.org. Pour finir, oui à l'Europe, non à Bolkestein et surtout non à cette constitution qui n'en est pas une. Bon après-midi, au revoir.
Bonjour Daniel Mermet, les auditeurs de la base si j'y suis. Alors donc, Chirac a obtenu que la directive Bolkestein soit repoussée pour sauver sa constitution et les journalistes le présentent comme le grand défenseur de l'Europe sociale. Eh bien, tous ces beaux messieurs ont démoli la sécurité sociale, les retraites, tous les services publics sont en cours de démolition et il est le grand défenseur de l'Europe sociale. Et si nous, les lycéens, les fonctionnaires, les travailleurs du privé, partout, les paysans, tous ceux qui sont pas contents, et si nous, on relançait l'idée de cahier de doléances pour faire connaître nos revendications aussi, pour faire connaître la voix de la... du peuple d'en bas. Voilà, et René Ravoteur de la Martinique.
Le 29 mai, faisons œuvre de salut public. Votons non à ces arnaqueurs de tout poil. Européens, oui, nous le sommes, mais pas pour une Europe des milliardaires. Ne donnons pas, une fois encore, à ces escrocs qui gagnent parfois un million de fois plus que d'autres, l'occasion d'en amasser davantage. Et même si certains articles de la Constitution peuvent être avantageux pour les petites gens, l'essentiel est prévu pour que les gros grossissent encore plus. Refusons cette camisole des profits capitalistes. Votons non, nom de nom. Ce ne sera pas le désastre annoncé, mais ça obligera les rédacteurs à écrire un texte équitable. Salut les amis et bon vote. De la part de Paul à Aurillac.
Ouais, bonjour, c'est Khaled d'Annecy. Pour une fois, j'aimerais dire bravo. Bravo à M. Chirac, M. Raffarin, tout le gouvernement, aux députés. Bravo parce que grâce à eux, ben, les femmes elles vont être égales aux hommes. Alors c'est bien. C'est très très bien. Encore bravo. Bon, par contre, écoute, mesdames, il va falloir être un petit peu patiente, hein, parce que ce sera pas avant 2010. Et encore. Peut-être que les entreprises vont faire comme pour les handicapés, et puis qu'elles vont préférer payer des amendes. Mais bon, bravo quand même. C'est bien. Quel courage. Bravo. Allez, au revoir.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Germinal Père, je suis lycéen en terminale est au lycée Bellevue à Toulouse. Je fais partie du CLT, la coordination des lycéens toulousains, et je parle en tant que porte-parole des lycéens de mon lycée. Je vous informe que depuis lundi soir, le lycée est tombé en occupation et nous avons bloqué toutes les portes du lycée, provoquant la fermeture administrative de ce lycée. Tout ça pour montrer le signe de contestation à la future approbation par le Sénat cet après-midi de la réforme Fillon. Nous appelons tous les lycéens, les étudiants, les professeurs, les parents d'élèves, les athos et tous les contestataires au gouvernement à s'unir à notre mouvement et à nous soutenir contre toutes les pressions extérieures visant à casser notre mouvement de manifestation. Merci de votre compréhension et j'espère que mon message sera diffusé. Merci. Au revoir.
J'ai écouté les infos ce matin. Voilà, c'est désolant, la loi Fillon est passée. Je suis prof. Et je suis désolée pour mes petits élèves qui se sont mobilisés. Et puis je voulais dire à quel point souvent je ronge mon frein pour ne pas leur dire, mais bon sang, mais que de raisons vous avez de descendre dans la rue et pas seulement pour la loi Fillon. Si vous aviez la conscience de voir à quel point vous êtes manipulés dans tous les sens, que on essaie de vous faire croire à tout prix que le bonheur est dans la consommation, le bonheur est ailleurs, on vous prépare un avenir difficile, vous avez toutes les raisons de descendre. Alors qu'est-ce que je fais? Ben je ferme mon bec là-dessus bien sûr, et puis j'essaie de les faire travailler un peu, de développer leur esprit critique, de leur ouvrir les yeux. Je voudrais tellement que toute cette jeunesse se révolte enfin. Voilà Daniel, merci, et puis merci pour tes émissions, au revoir.
Je suis atterré par le niveau des choix éditoriaux du répondeur de la basse et j'y suis. Un amas de contresens, de contre-vérités, pour ne pas dire de mensonges et de clichés. Il faut inviter des pro-Europe pour qu'ils exposent leur point de vue. Merci Stéphane, merci de ce message. Sans vous, nous n'aurions eu aucun message pour le oui. On a bien regardé avec Christophe Imbert dans le répondeur, sous le répondeur, derrière le répondeur. On n'a trouvé aucun message de oui aujourd'hui pour l'Europe. Voilà, on est désolé. Heureusement, merci Stéphane, voilà, il y a un tout petit contrepoids dans ce concert de noms, au moins sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Il n'y a pas que ces messages-là, vous avez entendu. Il y en a quelques autres qui vont suivre dans un instant. Je rappelle une fois encore le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis. C'est le 01 56 40 37 37. Et aujourd'hui, une balade, une escale à San Francisco. Le temps s'y prête. Et c'est une ville qu'on aime particulièrement, qu'on a aimé particulièrement, n'est pas resté très longtemps, mais ça a suffi pour qu'on tombe amoureux de cet endroit. J'espère que ce sera contagieux. C'est jusqu'à 18h dans la basse et j'y suis. Vos messages auparavant.
Voilà, c'est Christiane de Grenoble. Je vous appelle juste pour vous parler de Monsieur Sellière. Parce que Monsieur Sellière, c'est un brave homme, vous savez. C'est un monsieur qui trouve que le SMIC est trop élevé, que nous sommes des fainéants, que nous ne valons rien. Moi, je le trouve bien gonflé, ce monsieur. Je voudrais bien échanger mon SMIC contre sa fortune. Croyez-moi, pendant ne serait-ce qu'une journée, je voudrais bien. Et puis, ce que je voudrais dire aussi au sujet de l'Europe, c'est que vu de chez moi, ben, elle me ressemble à une usine à gaz. Hein. Alors, dire qu'on a le droit et le devoir de dire non à la marchandisation du monde, moi, je trouve ça formidable. Simplement parce que les gros et les gras du CAC 40 et consorts étrangers voudraient bien le faire sans nous, le monde. Ils nous bifferaient d'un trait de plume si on ne remplissait pas les rues. Et nous sommes seuls face à eux, seuls mais nombreux à l'être. Alors solidaire, c'est bien, coude à coude, c'est mieux. Main dans la main, c'est encore mieux. Parce que le monde, on le veut, mais pas que pour eux. On en veut aussi un peu pour nous. Et tous ceux qui n'ont rien, et par rapport à tous ceux qui en ont trop. Voilà comment je vois l'Europe. Moi, je vois une Europe formidable, solidaire, mais pas comme on veut nous la faire admettre aujourd'hui. Donc, je vais voter non. À bientôt, Daniel Mermet, et merci pour vos émissions. Elles sont formidables. Au revoir.
Le gouvernement veut attendre début juin pour négocier les salaires. C'est bien vu, en attendant, pour que les salariés se tiennent sages et qu'ils votent oui à cette Europe des riches. En leur laissant l'espoir, le 29 mai passé, on pourra se retrouver pour discuter le bout de gras, mais cette fois, sans pouvoir faire planer sur le référendum le risque du vote négatif des mécontents. Et voilà, le tour est joué une fois de plus, et avec la bénédiction de la CFDT.
Bonjour, Bernard de Paris, je fais partie du réseau Stop Précarité. J'appelle pour Latifa, qui est syndicaliste à Maxiliv, je pense que tout le monde se souvient d'elle. Elle est passée plusieurs fois là-bas si j'y suis. Et donc elle a des petits soucis en ce moment. Elle est attaquée en diffamation avec le PDG de Radio France, Monsieur Cluzel, parce qu'elle avait une émission. Enfin, elle a dit des choses qui, paraît-il, il ne faut pas dire sur son employeur. Donc elle a attaqué en diffamation. Et donc, voilà, bah, ça serait bien de venir la soutenir dans ce combat pour la liberté d'expression. Ça existe encore un petit peu. Donc, il y a un rassemblement devant le palais de justice à Paris, mardi prochain, c'est-à-dire 29 mars à 12h30, au métro Cité. Donc, pour tous ceux qui se souviennent du passage à la Bastille sous Latifa, CGT Maxilivre. Voilà, à très bientôt, merci.
Souvenirs ont parcouru 20 000 lieues sous les mers, frôlant les vaisseaux disparus, les noyés aux lèvres amères. Billes d'agate, billes d'acier, plumées chinois, réglisses en, cartable noir et tablier, porte-plume à vue du Mont Blanc. Livre des traînes rouge et or, qu'il est loin ce temps, et la bégomme et tout son or ne te les rendront pas pourtant. J'ai perdu la trace aujourd'hui des trois Anglais du pôle Nord. Les jours s'en vont, les ans ont fui, les grands aventuriers sont morts. Les capitaines de 15 ans en ont 80, bien sonnés. Les flots qui s'en vont moutonnant emportent épave les années. Je cherche au centre de la terre les deux explorateurs errants. Comme eux, je vais, je viens et j'erre, enfant du capitaine Grant. Où est la maison à vapeur, l'obus pour aller dans la lune? Il ne te reste que ton cœur. Où sont les coureurs de fortune? Le Nautilus a disparu avec Nemo et ses chimères, avec Kéraban, le têtu, avec les Robinsons de terre. Trop de naufrages, trop d'oubli rongent le bois, rouillent le fer. Toutes les voiles sont pourries et tous les marins sont à terre. Desperado, grand Jules Verne, prince des îles et du mystère, voici ton pavillon en berne et ton navire solitaire. Les nuages glissent dans les nues, le cœur attend, le cœur espère. Nos souvenirs ont parcouru 20 000 lieues sous les mers. Claude Roy, hommage à Jules Verne.
Back of the Southern Pacific Station at 3rd and Townsend. In red brick of drowsy, lazy afternoons with everybody at work in offices, in the air you feel the impending rush of their commuter frenzy. As soon they'll be charging en masse for market, sansom buildings on foot and in buses, and all well-dressed through working man Frisco of walk-up truck drivers. And even the poor, grime-demarked 3rd Street of lost bums, even Negroes, so hopeless, long left east, and meanings of responsibility and try. But now all they do is stand there spitting in the broken glass, sometimes 50, one afternoon against one wall at 3rd and Howard. Here's all these Milbrae and San Carlos neat-necktied producers and communities of America, rushing by with San Francisco
parties.
On peut descendre et pousser.
Tout
le monde descend, on va pousser. Sinon, on va rester ici pour aller arrêter la nuit. Partez pas sans nous.
Quand
vous entendez deux cloches, poussez.
Ok, guys, I think I'm out of
that. Mais c'est vrai en plus. C'est extraordinaire, ça.
Allez, remontez.
Tout le monde a poussé, hein.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Jour tranquille à San Francisco. Flight number 2, arriving from New York. Fuck art, let's dance. Et une journée tranquille à San Francisco aujourd'hui après ces jours sombres et étouffants, menaçants dans les prisons de Los Angeles, ces accumulations terrifiantes de violence, et histoire de pas devenir complètement américanophobe, pour pas dire américanoïaque, on s'arrête pour une heure de repos, une petite escale dans une des plus belles villes du monde, San Francisco, histoire de se décrasser un peu les antennes. On va se balader, nez au vent, dans cette ville magnifique. Le ciel est bleu, on nous dit que c'est exceptionnel, alors on va en profiter. Bien sûr, cette ville doit sa beauté à la géographie, alors on va laisser rouler les images et péter les débris des nostalgies, beatnik, hippie. Les rêves finissent mal en général, mais n'oublions jamais qu'on arrive jamais avec les raisons qu'on avait en partant. Flotte ici un air désert qui vous réconcilie avec les clochards célestes et les anges dissipés qui hantent encore les rues sombres ou non de cette ville. C'est sur les pas de ces racheteurs de désastres, ces hommes épicentres des chaos, qu'on va se balader jusqu'à 18h. Fuck art, let's dance. Comment traduire ça? L'art aujourd'hui, rien à foutre, on préfère cacher.
See, we're going to the BB. Lombard Street. Seats on this side. 8 to stand, 8 to sit.
A lot of people have asked me why did I write that book or any book. All the stories I wrote were true, because I believed in what I saw. I was traveling west one time, at the junction of the state line of Colorado, its arid western one, and the state line of poor Utah. I saw in the clouds huge and massed above the fiery golden desert of Evenfall, a great image of God with forefinger pointed straight at me. Halos and rolls and gold folds that were like the existence of the gleaming spear in his right hand, which saith, come on, boy, go thou across the ground. Go moan for man. Go moan. Go groan. Go groan alone. Go roll your bones alone. Go thou and be little beneath my sight.
Combien sont partis sur les routes après avoir lu sur la route de Jack Kerouac? C'est ici, dans cette petite rue de Russell Place, que Jack Kerouac a écrit On the Road et d'autres livres. La première chose à faire quand on arrive à San Francisco, histoire de se réconcilier avec la civilisation, c'est d'aller faire un tour à City Light Bookstore, qui est une librairie qui rappelle assez Shakespeare & Co, vous savez, à Paris, sur les quais, cette librairie qui était un refuge de la lecture, un refuge de la rencontre, un refuge de la poésie, petit carré de résistance, comme ça, où il y a un peu de autre chose que le blé et le profit qui est là encore. Alors, cette librairie est toujours tenue par Lawrence Ferlinghetti, qui était un héros de l'histoire. Il a 80 balais aujourd'hui. Manque de chance, il n'était pas là ce jour-là. Et on a passé un moment délicieux dans la nostalgie de ceux qui ont vécu et promu cette révolution hallucinée que fut l'histoire de la Beat Generation, une histoire compliquée, terrible, subversive évidemment, dans cette Amérique triomphante de l'après-guerre. C'est extraordinaire en se baladant là et en retrouvant ces gens, leur poésie, leurs intentions, leur parcours, leurs échecs, leur façon de se consumer beaucoup trop vite. C'est extraordinaire de voir tout ce qu'on doit à ces gens-là. Alors, je vous propose qu'on commence une balade avec eux, dans les sons, les musiques, les lumières, la poésie psychédélique de Los Angeles. Mais on va commencer évidemment en tout bien tout honneur avec Ginsberg.
America, I've given you all, and now I'm nothing. America, $2.27, January 17th, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. I don't feel good, don't bother me. I won't write my poem till I'm in my right mind. America, when will you be angelic? When will you take off your clothes? When will you look at yourself through the grave? When will you be worthy of your million Trotskyites? America, why are your libraries full of tears? America, when will you send your eggs to India? I'm sick of your insane demands. When can I go into the supermarket and buy what I need with my good looks? America, after all, it is you and I who are perfect, not the next world.
Consumait, nous consommons, voilà ce qu'on pourrait dire en pensant à ces héros, des anges déchus, brûlés, criés, défoncés de ces générations de beatniks et de hippies qui ont hanté cette ville de San Francisco. Il y a un endroit assez étonnant à San Francisco qui s'appelle Coit Tower. Coit Tower. Pour deux bougres comme Give et moi, ça suffit. Un mot comme ça, un nom comme ça, un lieu comme ça suffit à nous attirer. Est-ce qu'on va dire Coit Tower ou Quat Tower? Parce que si c'est Coit Tower, c'est la tour du Coit.
Coit.
Coit Tower.
Coit. Oh, d'accord, alors c'est Coit.
Coit.
Coit Tower. Et effectivement, sur cette hauteur de San Francisco, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est phallique. C'est une tour de forme phallique.
Mais si on la regarde pas, si on regarde autour, c'est une splendeur. Le paysage à cette heure-là, la nuit descend, il y a une brume légère qui envahit tout et c'est superbe. À gauche, là-bas, il y a le Golden Bridge qui est tout à fait gris. Et devant nous, la baie de San Francisco. Là, c'est Alcatraz, hein. Ça, c'est Alcatraz. Il y a des bateaux de la Navy qui circulent. On est un peu essoufflé parce qu'il a fallu monter jusque là. C'est les montagnes russes, hein. Là-bas, la ville, qui s'étend, qui monte et qui descend. Et devant nous, alors ça, la statue, une statue de Christophe Colomb, offerte par la ville de Gênes. Avec un drapeau américain là-bas devant, et c'est un endroit très touristique que cette Coit Tower qui fait 200 pieds de haut et qui a été construite en 1933. Cette plaque a été placée ici par la commission de récréation et des parcs le 8 octobre 1983 pour marquer le 50e anniversaire du Coit Tower.
De la Coit Tower.
De la Coit Tower.
La tour de Madame Coit. Voilà, on va rentrer dans un monument historique
grâce à l'argent de Madame Lily Hitchcock Coit, qui était amoureuse de sa ville. Elle a bien raison, parce que vu d'ici, c'est une pure splendeur.
Welcome, Koi Tower, à Pioneer Park. Très beau. Mais moi, je veux savoir qui était Madame Coit. Est-ce qu'on va trouver un guide ou quelqu'un pour nous expliquer, parce que on est drôlement embêtés, nous. Ah, voilà. Coit Tower.
Lily Hitchcock Coit. Elle avait 7 ans quand elle arrive à San Francisco en 1851 et dans sa toute petite enfance, elle a connu un drame terrible, cette Lily Hitchcock Coit. Elle a été prise dans un incendie avec des petites copines à elle. Deux de ses petites amies ont disparu et elle a été sauvée. Et à cause de ça, Lily Hitchcock, qui s'appelle pas encore Coit, a conçu une admiration et une reconnaissance infinie pour la compagnie de pompiers qui l'avait sauvée, la compagnie numéro 5. Elle est devenue la coqueluche et la mascotte de cette compagnie de pompiers. Et puis c'est par la suite qu'elle s'est mariée avec un type qui s'appelait Monsieur Coit, qui est mort, lui laissant une fortune assez importante. Une femme qui avait voyagé, qui était assez fantasque, qui avait notamment voyagé en France, etc. Et puis donc, à sa mort, elle a laissé de l'argent à la ville de San Francisco, avait-elle dit, pour embellir la ville en général. Alors, cet argent était là, et puis, en 1931, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? On doit dépenser cet argent. Et finalement, on a décidé de construire cette tour assez étonnante dans le paysage. Donc, Coit Tower, la tour Coit.
Regardez la photo de... Is that Miss Coit?
Yeah. This is Miss Coit?
That's right.
How do you say? Miss Coit?
No, it's Lily Hitchcock Coit.
Ah, Lily Hitchcock Coit.
That's right. First step. Upstairs to the right.
That's fun. À droite. En tout cas, la vue, c'est à droite en montant l'escalier.
Mais est-ce que les pompiers viennent?
Non.
Il y a juste une rumeur que la tour est censée avoir l'air d'une lance à incendie.
Ah.
It wasn't intentionally, but
c'était pas intentionnel, mais c'est une rumeur qui dit comme ça. Yeah.
Ouais. It's like a penis too, no? It's like a phallus.
Exactly.
Exactement.
Un peu. Coit. On dit la même chose en anglais, coit.
I don't know.
Well, I've heard something about it.
Moi, j'ai entendu dire quelque chose sans que ça voulait dire, mais enfin bon.
Interesting.
Ah. Upstairs to the right. Mais vous savez ce que ça veut dire, coït? You know what it is?
I don't know what it means.
La devrait être en espagnol.
Ok, je peux le dire en espagnol.
Comme pene, algo así.
Il paraît que ça veut dire pénis, un truc comme ça.
I don't know if I'm right, though.
Mais je suis pas sûr, vraiment, quoi.
Is it that or not?
C'est ça ou pas? Oh. Attends, il y a des dames qui arrivent, mais attends,
on peut pas le dire.
Alors, on y va?
Il faut que je le dise maintenant.
Ah, il faut qu'on lui dise ce que ça veut dire, coït.
So, coït means...
Oh, okay.
In French?
Yeah.
Yes. Okay. So, if you use it like that, I want to coït you.
Ça peut dire, j'ai envie de coïter.
Or, I want to participate in coït.
No. Ou alors, j'ai envie de participer à un coït.
It's rather this.
Don't care, bro.
Okay,
thank you.
Hey, you had a good evening, huh?
Yeah, you too. Bye-bye. C'est vraiment un endroit magnifique ici. Alors là, c'est un bistrot complètement mexicain dans ce quartier de Mission. Avec un billard là-bas, un jukebox, c'est l'heure de la tequila et de la bière. Mais c'est très Amerloc aussi en même temps parce qu'il y a la télé qui tourne évidemment. Il y a deux écrans de télé qui tournent. Il y a des ballons de toutes les couleurs au plafond. Il y a une boule de cristal. Il y a des décors de Noël encore qui traînent sur les murs. C'est dans une pénombre. Comme ça, c'est très très beau, très très gai. Il n'y a que des hommes à l'exception des cerveaux qui sont très jolis. Et un nu magnifique là au mur.
Tamaulipas, los hombres son decididos, por eso lo recordamos, cantándole sus corridos. han matado allá en Zacatecas a un federal de camino. Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba, honor le hacía el uniforme y a la escuadra que él cargaba. En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba. Javier su deber cumplía, ¿cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo, que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo.
Alors voilà un rapprochement formidable entre ce bistrot du samedi soir dans le quartier de Mission à San Francisco, bistrot où les Mexicains, enfin les gens qui viennent du Mexique ou les Latinos en général viennent boire un coup. C'est que la Coit Tower qu'on vient de quitter est ornée en fait dans les un peu partout de fresques magnifiques. Qui rappelle tout à fait les fresques du peintre muraliste mexicain Diego Rivera. Et ces fresques ont une histoire qui est assez extraordinaire. C'est que, il faut revenir un petit peu en arrière, en 1929, c'est le krach boursier, l'Amérique s'effondre complètement. Vous vous souvenez au moins d'un livre de Steinbeck qui s'appelle Les raisins de la colère et qui raconte ça. Et à la suite de cet effondrement financier, économique terrible, ce sera la politique menée par Roosevelt, la politique du New Deal, qui est une politique avec du social. Voilà, il y a des idéaux sociaux qui traversent l'Amérique, et pas seulement des idéaux, ça va se traduire aussi sur un plan plastique, sur un plan artistique. Et c'est ainsi que naîtra un mouvement de plasticiens qui s'appelle les artistes du New Deal. Et ces artistes s'inspirent de l'art de Diego Rivera, qui triomphe à ce moment-là au Mexique voisin. Et notamment, il a été requis pour peindre une grande fresque au Rockefeller Center à New York. Mais je ne sais pas si vous connaissez la peinture de Diego Rivera, il n'a pas manqué de mettre un formidable portrait de Lénine au plein cœur du Rockefeller Center. Évidemment, on lui dit « capitalisme could not take it », c'en est trop pour le capitalisme, et la fresque ne sera jamais achevée tout à fait. Mais ces peintures dans la Coit Tower, dans les couloirs, existent toujours. Elles ont été peintes non pas par Diego Rivera lui-même, mais par des peintres muralistes, une trentaine de peintres qui ont marqué là un moment de l'histoire des États-Unis. Évidemment, on a vu là quelque chose de rouge, on a vu des communistes qui avaient peint ça. Ça a été un peu mis à l'index, et au fond, aujourd'hui, ça l'est. Ça l'est toujours. Les guides sont très ne s'attardent pas sur cet aspect des choses, y compris les guides français qui parlent de San Francisco. Là, on est dans le quartier de Mission. On va rencontrer quelqu'un de très intéressant qui s'appelle Philippe Bourgois, qui est franco-américain et qui est un anthropologue, qui est un chercheur. Pourquoi ? Parce que San Francisco, comme c'est pas seulement San Francisco, mais dans toute cette partie des États-Unis, tout le long de la frontière, la route 66 qu'on évoquait tout à l'heure, il y a des quantités de travailleurs mexicains clandestins qui viennent chaque jour travailler aux États-Unis. Quelle est pourquoi cette main-d'œuvre ? Comment fait-on, comment aux États-Unis traite-t-on les clandestins, les sans-papiers ? C'est ce qu'on a voulu savoir avec Philippe Bourgois, en se baladant dans un quartier où des hommes attendent toute la journée de 7h du matin jusqu'à la nuit tombée, qu'on veuille bien venir les chercher. Alors de temps à autre, il y a quelqu'un qui leur propose un job, une voiture qui vient, un petit bus qui les embarque. Mais sinon, ces types attendent toute la journée du boulot. Alors de temps en temps, voilà, ils vont faire un truc dans un resto, dans le bâtiment. Ils sont dans une situation en principe illégale, mais vous allez voir comment, en fait, l'administration est très hypocrite puisque on leur tolère en fait des faux papiers. Alors là, rencontre avec un des gars qui se balade sur dans ce quartier, sur ce trottoir. Lui connaît très très bien le coin, la question et les faux papiers.
Oh, llevo como 9 años.
Ça va, ça va faire 9 ans.
9 ans, ça fait 9 ans que tu es là.
C'est 9 ans, yeah, c'est moi. I never tried to get my papers.
J'ai jamais essayé d'avoir mes papiers.
Ah. Alors, mais comment on peut faire? Nous, dans notre pays, c'est pas possible d'être comme ça sans papier.
Claro que si ya me van a cachar, pues me van a meter para atrás.
Bah, ça, c'est clair. Par contre, s'ils m'attrapent, alors là, ils m'envoient, quoi. Ils m'expédient.
Ouais, ils en renvoient beaucoup.
Non, aquí no, aquí no hay problema con la
ici, il n'y a pas de problème avec l'administration.
C'est comprar mi ca.
Quoi,
on peut acheter le numéro de sécurité sociale et l'identité sociale.
Et comment tu sais ça?
Ben, il te crie dans la rue, Mika.
Il a dit non. Il a dit qu'il
avait uno. Tu dis que s'il en veut un, je peux lui en faire un.
Tu peux faire les papiers, toi?
Ça coûte quanto cuesta? Ça coûte combien?
Depende, mais...
Ça dépend.
Si, yo te digo 100 et tu, dices,
si
okay.
Tu me dis 100 et que tu dis c'est ok, alors là, je te l'ai fait pour 100.
Pour 100 dollars, tu peux faire des papiers.
Hasta más. Si eres extranjero.
Si tu es étranger.
D'Angleterre,
de Russie, de tout.
Y vas a agarrar un buen trabajo.
Et tu veux avoir un bon travail.
Y necesitas eso.
Et tu as besoin de ces papiers.
La gente te lo hace. Man.
Mais on peut te les faire sans problème.
Quiere uno?
T'en veux un?
Ouais. Dis-moi combien.
Tu peux te faire des papiers américains à l'instant.
C'est vrai? Pour combien?
Pour 100 dollars. 100 dollars, mais j'ai un copain qui a payé 30 dollars.
30 dollars, je peux.
Et sécurité sociale. Il y a plusieurs papiers. Sécurité sociale.
Tout.
Il y a tout, on peut tout faire.
L'acte de matrimonio,
l'acte de mariage, l'acte de divorce,
la
sécurité sociale, tout.
Green card, la carte verte aussi.
También?
Oui. Ouais. Mais ces papiers fonctionnent d'après ta...
Oui, c'est-à-dire que l'employeur ne veut pas savoir que tu es illégal, il veut te donner du travail, il veut que tu travailles dur. Alors, lui, il a seulement besoin de la preuve qu'on lui a donné un papier.
Ouais, ils sont contents.
L'immigration ne peut rien lui dire parce que lui, il a vérifié les papiers.
C'est ça. En fait, ce qui se passe ici, c'est que c'est très facile pour nos amis là, mexicains de venir d'entrer. Hein. C'est pas du tout héroïque. D'obtenir des papiers, des faux papiers, c'est pas du tout difficile. Simplement, c'est une main-d'œuvre formidable pour les entreprises du coin.
Ça, et très vulnérable. Alors, s'ils rouspètent, ils peuvent être mis à la porte immédiatement.
C'est une garantie de docilité.
C'est ça. Et pas d'un syndicat, et pas de sécurité médicale, rien de ça. Mais c'est ça la pagaille américaine, qu'on n'a vraiment aucune idée, en vérité, des chiffres. Il y a tellement de gens illégaux. Les estimations des sociologues varient de 5 à 10 millions entre chaque personne. Alors, pour vous dire la vérité, on n'a pas une bonne idée de combien de gens sans papier il y a ici. Mais on se rend vaguement compte que l'économie ne pourrait pas marcher sans eux. C'est-à-dire, spécialement dans la construction, même dans les fabriques, comme il a dit, c'est des industries entières qui dépendent de ça. Et les beaux fruits qu'on voit dans tous les supermarchés en Californie, et les fraises épatantes et les tomates et tout ça, et très 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 bon marché. Tout ça, c'est cette main-d'œuvre qui est très très mal payée et qui, en plus, est très flexible. C'est-à-dire, ils viennent pour la récolte, ça dure 2 mois, 1 mois, et puis ils repartent quand il n'y a plus de travail. Alors, ça les rend encore plus bon marché pour le patron américain.
Il y a une transaction qui est en train de se faire.
Oui, il y a un gars qui est en train de venir chercher un travailleur, quoi. Ouais, il vient chercher un gars pour son restaurant. Oh, pour un petit boulot, voilà, on vient chercher la main-d'œuvre dont on a besoin, quoi. Hein? C'était ça la place des grèves, hein?
Ouais.
La place des grèves à Paris,
Ça, tu peux arracher des bras.
Oui. Le supermarché des bras, on va gagner, si on est engagé, 8 à 10 dollars de l'heure. C'est à peu près ce qu'on gagne pour le même boulot en un mois à Mexico. Donc, on comprend tout à fait pourquoi ces gens se déplacent jusque-là. Alors, il y a ceux qui disent « Ah non, nous on revient à Mexico, on est Mexicains, etc. » Et puis, il y a ceux qu'on a vus tout à l'heure dans un bistrot comme celui de Carlos Barr, qui sont intégrés maintenant depuis longtemps à la vie américaine, mais qui se souviennent que très vaguement de leurs origines américano-latines, on va dire. Alors, c'est quand même extraordinaire ce que nous dit Philippe Bourgois, de 5 à 10 millions de sans-papiers aux États-Unis. Voilà une clé du miracle.
Il n'y a pas de nécessité d'avoir à vivre avec le sentiment de, si on tombe malade, on va perdre le logement, on ne va pas trouver comment payer le loyer, et il n'y a pas de place dans les HLM, etc. Mais c'est le système qui fait qu'il y a beaucoup de flexibilité, les taux de business qui tombent et montent et descendent et très haut. Alors, l'économie est forte, c'est ça qu'il faut admettre. C'est une situation frustrante. On veut la critiquer parce qu'elle est cruelle. Elle oblige les gens à vivre sans droits basiques comme logement, santé, etc. et éducation décente. Mais en même temps, l'économie est forte. On arrive à trouver quand même du travail. C'est la contradiction américaine. C'est que ça marche en dépit de toute cette horreur. Le système marche. Mais ici, comme il disait avant, que là-bas, c'est les centres américains. Hein, coin de rue. Ici, nous, on est les Mexicains.
Territoire.
Alors, c'est une balkanisation entre groupes très fort. Et on le voit même avec les gangs, non, d'un coin de rue à l'autre. Des identités très insulaires qui rejettent l'autre.
Alors, pendant ce temps-là, le pouvoir se protège avec ça, parce que toute la vie sociale, la vie politique de chacun est absorbée par ces conflits identitaires, ces marquages identitaires qui fait qu'on se tourne pas vers le pouvoir. C'est pas de la faute au pouvoir si on est dans telle situation, c'est de la faute aux gangs d'à côté ou à l'autre communauté.
Et c'est même pire parce que on voit pas le pouvoir à cause de ça. Au lieu de voir des inégalités, au lieu de pouvoir rouspéter parce qu'il n'y a pas de logement ou parce qu'il n'y a pas de bonne éducation, on rouspète parce que on veut avoir la liberté d'une identité culturelle spécifique. Alors on met toute notre énergie sur ces thèmes d'identité culturelle. Et on ne regarde pas les relations de pouvoir, les inégalités, les droits. Alors le droit humain s'est défini autour de ces thèmes qui sont des thèmes qui sont très confortables pour le pouvoir. L'orientation sexuelle, par exemple, ça fait peur à personne qui a de l'argent. Ou qui a le pouvoir politique. Tant mieux que si les gens sont obsédés par leur identité sexuelle ou par leur identité culturelle ou par leur identité religieuse ou de croyance quelconque. Mais c'est une ségrégation non seulement culturelle et ethnique, mais aussi de classe sociale et aussi de services publics. C'est-à-dire les poubelles sont pas ramassées avec la même régularité dans les quartiers pauvres que dans les quartiers riches. La police ne patrouille pas de la même manière, les écoles ne fonctionnent pas, etc.
Mais la réponse à tout ça, en caricaturant, la réponse à tout ça, la solution à tout ça, nous y revoilà, c'est le carcéral, quoi. C'est on construit de plus en plus de prisons et on met de plus en plus de monde en prison.
Oui. Et c'est dans un langage moral qu'on fait ça, en plus. C'est ça qui est extraordinaire avec les États-Unis. Parce que, en même temps qu'on a ce système tellement cruel et je dirais immoral, on utilise un langage très très puritain. Que les gens doivent travailler dur, doivent pas faire de péché. Les Américains sont obsédés par ce sentiment moral et de punir celui qui pêche. Et ça s'exprime justement dans ces inégalités de foutre tout le monde en prison et de ne rien donner à personne pour gratuit.
Il doit gagner son pain la soie de son front.
Oui.
Le rien n'est gratuit.
Oui. Ben, c'est le slogan de Vichy, je crois. Travail,
famille, patrie.
Famille, patrie.
C'est les États-Unis, quoi.
Absolument.
C'est le rêve de Pétain enfin réalisé à l'échelle d'un le plus grand pays
et
du monde.
Et les débats politiques sur le valeur de famille aux États-Unis, c'est inouï.
Dans la famille, les family values.
Oui. C'est-à-dire que c'est amusant de visiter ici parce que c'est culturellement excitant, différent, joli, plein d'énergie. Mais le vivre, c'est quand même embêtant. C'est-à-dire, ça va bien si tu es bien bourgeois et tout ça. Mais si tu es ouvrier aux États-Unis, c'est trop compliqué.
Ouais.
Et c'est trop d'anxiété.
Pour réconcilier une bonne fois pour toutes avec les États-Unis, avec San Francisco, avec l'humanité tout entière et avec le bon Dieu. C'est dimanche matin et on est à la Saint John Coltrane African Orthodox Church. Vous avez bien entendu, Saint John Coltrane African Orthodox Church. Alors c'est pas facile à trouver parce que vous vous attendez à avoir une église, un bâtiment, et ben pas du tout. C'est une boutique. C'est une boutique. Vous entrez dans cette boutique et là il y a quelques bancs, une cinquantaine peut-être de personnes, et sur les murs, dans le style orthodoxe des églises orthodoxes d'Orient, un certain nombre de saints et de figures sont représentés, dont la plus importante est la figure de John Coltrane soi-même, le grand, l'immense musicien John Coltrane, qui est ici figuré en divinité avec son saxophone. Pourquoi ? Parce que en 1964, John Coltrane a écrit un fameux morceau qui s'appelle Love Supreme, et ça a donné naissance à cette toute petite église qui est à San Francisco. On va assister à cet office. Les fidèles se réunissent. Il y a une bassiste, une très belle fille d'ailleurs qui était la basse. Il y a une batterie, il y a des différents... Les fidèles viennent avec leurs instruments, tambours, sax, etc. Et puis on se chauffe, on se prépare, etc. Et soudain arrive le bishop, c'est-à-dire le prêtre, dans un vêtement, avec une soutane d'évêque, c'est-à-dire noir avec des dessous violets. Il arrive avec son saxophone devant l'autel et on joue pendant une heure, deux heures des morceaux, dont évidemment le fameux morceau de John Coltrane, Love Supreme. Voilà, merci à tous. Malheureusement, aujourd'hui, on a appris que cette drôle d'église qui tenait dans une boutique où tous les dimanches, il y avait ce culte pour John Coltrane, avec où on jouait tous les dimanches ce morceau Love Supreme, et ben a fermé. Je ne sais pas si elle l'a réouvert quelque part ailleurs dans la région, mais c'était un moment formidable. Merci à tous. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique des émissions Là-bas, si j'y suis. L'équipe de Là-bas, si j'y suis, c'est Antoine Chaos, c'est Yann Chouquet, c'est Pascal Yello et c'est Christophe Imbert. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Sur cette émission, le reporter, être lecteur et tout, c'était Guy Vanctil. Je vous donne aussi le mail de Là-bas, si j'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. On se retrouve lundi de Pâques à 17h pour Là-bas, si j'y suis. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne balade, de profiter un peu de la vie ce week-end. Et je vous laisse, il n'y a pas de réclame aujourd'hui, voilà, c'est votre petit cadeau de Pâques. Je vous laisse avec Frédéric Bonneau pour J'arrive à Rue. Salut, à lundi.